Voilà. Donc, sentez-vous libre, alors voilà. On va avoir un petit support vidéo, mais je vais d'abord prier le Seigneur en pensant à vous. que ce soit un moment riche et agréable pour chacun d'entre nous. Seigneur, merci de le temps que tu nous accordes pour nous poser ce matin et nous mettre à ton écoute. C'est pas toujours facile de le faire. Il y a tellement de choses qui se bousculent et qui réclament notre attention, mais merci de ce que nous pouvons nous mettre à l'écoute. Je te prie que ce moment soit riche, enrichissant pour chacun d'entre nous, soit rafraîchissant et qu'il soit un baume qui vient de toi. Merci Seigneur de prendre soin des enfants également, de leur permettre de saisir les choses. Je vais essayer de m'adresser à eux aussi, et je suis pas très fort pour ça, mais Seigneur, toi, tu es là. Bénis-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.
Alors, j'ai prévu un petit mot d'introduction. Il y a une expression... Il y a une expression qui revient souvent quand je discute avec les personnes. On me dit « Ah, dans quel monde vivons-nous ? Dans quel monde vivons-nous ?» C'est surtout les personnes qui sont un petit peu âgées qui parlent de ça, et dès qu'il y a une conversation, il y a ce souci qui remonte. Mais dans quel monde vivons-nous ? Alors c'est un monde où Dieu est poussé dehors. Hein. 2/3 des Français... plus ou moins, selon les études, 2/3 se déclareraient sans religion en particulier. C'est-à-dire, Dieu n'a pas de place particulière dans leur vie. Et ils pourraient répondre, moi je n'ai pas de Dieu. Et 1/3 Dieu se déclarerait comme athée. Pour eux, Dieu n'existe pas, il n'y a pas de Dieu. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. On serait le fruit du hasard, ou de lutte pour se faire une place au soleil. Et voilà, pour le monde athée, est assez triste quand même quand on y réfléchit. Mais on va pas commencer en se déprimant. Donc ce que je vous propose, c'est que nous nous mettions à l'écoute du Dieu de la Bible ce matin, que nous passions un moment à l'écouter, pour l'entendre, non pas seulement avec nos perceptions intellectuelles, mais que nous l'entendions dans notre cœur. Et le texte va nous parler de l'histoire de nos origines. Et peut-être vous allez constater au fond de votre cœur, comme le titre le disait, que nous sommes de lui. Nous sommes de lui. Notre origine est de Dieu. L'homme et la femme sont de Dieu. Alors on va lire le texte. Est-ce que vous arrivez à lire? C'est suffisamment gros du fond. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est en dessous de l'étendue, de celle qui est au-dessus. Et cela se passa ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul endroit et que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Dieu appela le sec terre, et la masse des eaux, mer. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines selon son espèce et des arbres qui donnent du fruit et contiennent leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années, ainsi que de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Dieu fit deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour, le plus petit pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et la nuit et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que l'eau pullule d'animaux vivants et que les oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu créa les grands poissons, tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau en pullula selon leurs espèces. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon et il les bénit en disant « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez les mers. » et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les animaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon son espèce, tous les reptiles de la terre selon leur espèce, et Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface du sol, ainsi que tout arbre portant du fruit avec pépins ou noyaux. Ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toutes leurs armées. Le septième jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le septième jour. Dieu bénit le septième jour et en fait un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Alors, Dieu est un créateur qui nous dépasse un peu, même beaucoup. On trouve ailleurs des paroles d'un homme sage qui s'appelle l'Ecclésiaste et qui sont rapportées dans notre Bible. « J'ai vu toute l'œuvre de Dieu, dit-il. J'ai vu que l'homme ne peut pas trouver ce qui se fait sous le soleil. Il a beau se fatiguer, chercher, il ne trouve pas. Et même si la sagesse veut connaître, il ne peut pas trouver. » aucun d'entre nous n'est là quand les choses ont commencé. C'est quelque chose qui est certain. Et les scientifiques ont proposé et proposent encore différentes théories qui ont varié au cours des temps. Mais ils confessent qu'ils n'ont pas réponse à tout. Et les théologiens, eux aussi, ne sont pas tout à fait tous du même accord sur la façon dont il faut comprendre le texte que l'on vient de lire, ce premier chapitre de la Genèse, le commencement de la Bible. Pourtant, les origines sont importantes à connaître. Si je pose, je dis à un enfant, mais qui es-tu ? Qu'est-ce que vous allez répondre, les enfants, si l'on vous dit, mais qui es-tu ? Vous allez peut-être répondre, ben moi, je suis le petit garçon ou la petite fille, l'enfant de papa et de maman. Et voilà. Et voilà une réponse qui est bien suffisante. Mais qui est le papa de ton... Qui est le papa de ton papa et la maman de ta maman? Ah ben c'est papy et mamie. C'est eux qui sont le papa de mon papa et le papa de ma maman. Mais qui est encore le papa du papa? Et qui c'est qu'il y avait au départ? Voilà ce qui nous intéresse quand même. Si importante que soient les origines, ça reste... un mystère. Et le texte que nous avons lu est surprenant. Mais il nous parle. Il nous parle d'un commencement. C'est un petit peu là où tout le monde est d'accord. Il y a eu un commencement du temps de Einstein au début, début du siècle. C'était surtout la théorie stationnaire qui régnait. Pour les scientifiques de l'époque, tout était toujours, avait toujours été comme c'était. L'univers était parfaitement stable. Et puis est venue la théorie du Big Bang avec le chamoine Georges Lemaître. Et là, ça a marqué le fait qu'il y avait un commencement. Et tout le monde est à peu près d'accord aujourd'hui sur le fait qu'il y a un commencement. Au commencement commence notre texte. Dieu créa à partir de rien. Et Dieu dit également dans notre texte, je vais revenir un peu en arrière, Dieu dit, Dieu déclare et les choses arrivent. Dieu organise, il sépare, il rassemble, il fait des familles d'animaux, de végétaux, par espèce. Il nomme également, il donne des noms. Et ça, c'est pas quelque chose d'anodin, parce qu'on va retrouver ça un petit peu plus tard dans le texte. Et Dieu, il est dans le temps, il a créé le temps, la journée, la semaine. Les choses se font une chose après l'autre. Jésus dira, à chaque jour suffit sa peine. Dieu remplit de diversité également. Je vais y revenir dans un instant. Dieu bénit et commande. On voit que la bénédiction de Dieu, ici, il bénit et il ajoute une parole. Sa bénédiction est toujours assortie d'un commandement, d'une parole, de quelque chose dans laquelle cette bénédiction va pouvoir s'épanouir et va pouvoir s'accomplir. Dieu est également satisfait de ce qui est bon. Dieu vit que c'était bon. Dieu vit que c'était bon. Ce texte répète souvent cette phrase. Dieu se satisfait de ce qui est bon. Et il y a également un achèvement. C'est une particularité également de ce texte. C'est qu'elle dit, il y a eu un moment où tout a été achevé. Alors, la théorie de la génération spontanée contestait ce point. À un moment donné, on pensait que voilà, la vie sortait naturellement. Hein. Mais là, il est question d'un achèvement, un moment où tout a été terminé. Et bon, On n'est pas assez maintenant bien loin de ce texte, mais on peut voir que, on peut constater que les choses vont plutôt en diminuant. On constate que les espèces disparaissent, que il y a plus d'espèces qui sont ajoutées, mais des espèces qui sont perdues. Et l'achèvement pose le problème de la fin. Je ne vais pas en parler également. S'il y a un achèvement, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a va y avoir une usure? Est-ce qu'il y a, va y avoir quelque chose où les choses vont toujours durer éternellement telles qu'elles sont? C'est d'autres questions, un autre sujet. Ici, on va s'intéresser aux origines, mais l'achèvement pose également la question du devenir de cette création. Une façon intéressante de regarder ce texte, c'est de associer le jour 1, le jour 4, le jour 2, le jour 3 et le jour 3 et le jour 6. Alors c'est ce qu'on va faire maintenant ensemble. Le jour 1, c'est la lumière. La lumière, elle est bonne. Elle est au début, tout au début, le premier jour, et elle est le quatrième jour, à la fois au début du texte et à la fois au centre du texte. Cette lumière, elle remplit le ciel, elle domine les ténèbres. Et j'ai quelques images ici pour l'illustrer. Ça, c'était à Villefranche. Les ténèbres, la lumière, et combien c'était beau coucher de soleil. La photo ne les rend pas telles qu'on les voit pour de vrai. Quand le soleil, en particulier, ça arrive souvent à Villefranche, où le soleil, à son lever ou à son coucher, éclaire le dessous des nuages. C'est quelque chose de glorieux et on ne peut que rester là, bouche bée devant ce spectacle très éphémère. Le soleil dans le ciel, hein, tout le monde le connaît, tout le monde le reconnaît, il a une place, là c'est la place du jour, et la lune pour la nuit, qui préside la nuit, dit notre texte. Et puis les étoiles, ça c'est une photo des Pléiades, il y a une multitude d'étoiles, disent les astrologues, qui regardent loin dans le ciel avec leur télescope, et ils voient des quantités phénoménales d'étoiles dans le ciel. La lumière est bonne, la lumière au centre, elle remplit le ciel, elle est tellement importante pour nous, il faut bien le reconnaître. Et je voudrais lire avec vous. Le prologue de l'évangile de Jean, le tout début de l'évangile de Jean, qui fait résonance avec cette lumière centrale. Voici ce que nous lisons dans l'évangile de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dieu dit. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui est fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Jour 1 et jour 4. Maintenant, le jour 2 et le jour 5. C'est le jour des grands espaces. Est-ce que vous avez déjà vu la mer? C'est un spectacle que moi, qui vient de la campagne, je l'ai vu assez tardivement. Et on est impressionné quand on se trouve devant la mer, devant cet immense espace. Et avec le bateau, je suis monté en bateau et fort heureusement, j'ai toujours vu la terre. J'ai jamais été loin pour être complètement isolé et perdu au milieu de la mer. Et les marins et ceux qui sont dans les bateaux disent, Quand on est au milieu de la mer, on n'est nulle part. On n'est pas de, on est d'aucun pays. On est dans un endroit où on est complètement isolé et autonome. On ne dépend plus de personne. La mer. La mer et le ciel, les étendues. Alors ça, c'est la mer de nuages qu'on voit quand on est dans l'avion, quand on s'élève. Ce sont des spectacles qui sont magnifiques. Les grandes étendues, les grands espaces. Et là, Dieu y met dans la mer des poissons. Des poissons qui vont se déplacer à l'intérieur de la mer. Et c'est très, très intéressant, cette question de déplacement. Ça parle quelque part de liberté. Là, on voit un poisson qui remonte, c'est un saumon qui remonte un cours d'eau. Et en France, on avait les saumons, hein, le cycle des saumons qui ils font un tour, paraît-il. Ils naissent à la source d'une rivière. Et puis, la levain va suivre le cours d'eau. Il va grandir, il va aller se retrouver dans l'océan, faire un tour autour du Groenland et revenir. Et il va retrouver le chemin qu'il a suivi quand il était tout petit pour aller pondre. Et le cycle ne se fait qu'une fois. La possibilité extraordinaire de se déplacer, de se mouvoir, la liberté d'aller n'importe où. Et en même temps, l'obéissance à des lois qui sont complètement mystérieuses et qui nous échappent complètement. Dieu veut remplir toute chose et il remplit la mer de poissons et il remplit le ciel d'oiseaux également. Et l'oiseau, c'est le symbole de la liberté. Ils vont où ils veulent, on a l'impression, et ils font ce qu'ils veulent. Et c'est un rêve pour l'homme que de pouvoir avoir la liberté des oiseaux de voler dans le ciel. Mais aussi, eux aussi obéissent à de mystérieuses lois qui leur font traverser les océans, traverser les mers, traverser des déserts et pour aller faire des grandes migrations. Et ils vont d'un côté et ils viennent de l'autre et ils retrouvent leur nid. Quand j'étais enfant, on avait une étable et là, mon père était tellement content qu'il y avait une hirondelle qui venait faire son nid dedans. Il laissait le haut de la porte était toujours ouvert pour qu'elle puisse, les oiseaux puissent rentrer et sortir. Parce que quand il y avait le nid d'hirondelle, eh bien, il n'y avait pas de mouches dans l'étable et les vaches étaient bien contentes d'être débarrassées de leurs mouches. Et elles partaient et elles revenaient et elles retrouvaient. Elles partaient à l'automne et revenaient au printemps et elles retrouvaient leur nid. Elles savaient où il fallait qu'elles aillent. Un mystère. Des lois qui semblent nous échapper complètement. Les astres aussi sont dans des espaces encore plus grands. Mais eux, on a l'impression qu'ils ont des grands espaces, certes, mais des lois infiniment serrées, le fine-tuning, disent les scientifiques, qui fait que tout fonctionne comme une horloge d'une précision incroyable. Eux, ils ont les grands espaces, ils se déplacent, mais leur liberté est tellement serrée. Et puis nous, qui sommes aussi dans un espace où on peut se mouvoir, dans un espace où nous avons de la liberté, cette liberté que nous avons, elle est plus limitée. On ne fait pas tout ce qu'on veut comme un oiseau ou comme un poisson. On a des frontières, des choses qu'on ne peut pas faire, mais on a une liberté pourtant qui nous semble sans limite dans tous les choix que l'on peut faire. Moins de possibilités de se déplacer, mais plus de possibilités d'aller là où on le souhaite pourtant. La liberté, les espaces nous parlent de liberté. Dieu a créé la liberté. Voyons deux autres journées, le jour 3 et le jour 6. Là, il ne s'agit plus des grands espaces, il s'agit de la terre ferme, de la terre sèche. et avec toutes ces inondations qui ont eu lieu, je suis sûr que ceux qui avaient dernièrement les pieds dans l'eau apprécient combien maintenant d'être au sec. D'être au sec. C'est la sécurité, c'est la solidité aussi. La terre ferme, on peut s'appuyer dessus, c'est stable, ça ne bouge pas, ce n'est pas comme la mer qui est toujours en mouvement et dans lequel on va s'enfoncer. Quand on est sur le sec, on est en sécurité, on est sur quelque chose de solide. Et c'est un espace qui est plus limité que la mer, et donc cette limite fait qu'il va être partagé. C'est un espace partagé. Et là, on voit les animaux qui vont remplir cet espace et qui vont se le partager, se le partager. La diversité d'une création qui vont se partager. Il y a de très belles images en Afrique où, à la fin de la journée, tous nos animaux viennent boire et ils boivent tous ensemble. Et c'est un moment de paix pour eux, le moment où ils vont boire. Ils ont également à se partager une même nourriture. Tout le monde mange de l'herbe à ce moment-là, au commencement. Donc ça paraît surprenant, mais voilà, c'est précisé ainsi. On verra que dans la suite de la parole de Dieu, les choses vont changer à un moment donné, mais c'est pour plus tard. Et toute cette création, elle est très bonne. Intéressons-nous maintenant au Dieu créateur de l'humanité. Dieu, après Dieu le créateur qui nous dépasse, Dieu le créateur de l'humanité à son image. Et là, je vais insister un petit peu parce que là, c'est une spécificité de la parole de Dieu. On est toujours dans le sixième jour. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail de la terre, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Je n'ai pas parlé des insectes, mais c'est encore tout un univers. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre, soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant du fruit avec des pépins, des noyaux, ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait. Il constata que c'était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le sixième jour. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Alors, c'est un pluriel. Dans notre texte, il y a au moins deux personnes ici qui se dégagent. Il y a Dieu et l'Esprit de Dieu. La suite de la révélation des textes de la Bible nous parle de la Trinité. Mais Dieu et l'Esprit de Dieu, au moins ces deux personnes-là, on voit que la création de l'homme est le fruit d'un désir, d'une concertation, d'une décision et d'une action. À la fin, l'homme est créé. Mais il y a derrière tout cela un désir de Dieu. Dieu désire créer l'homme à son image et c'est le fruit d'une réflexion, d'un plan. Faisons l'homme à notre image, Adam, c'est l'homme, c'est... Alors, tantôt Adam désigne l'homme, la personne masculine, et tantôt Adam désigne l'humanité. C'est exactement comme en français. Alors, là, j'ai une remarque en passant. Vous avez peut-être entendu parler de l'écriture inclusive. C'est très controversé. Beaucoup de personnes qui s'opposent à cela, finalement, l'éducation de l'enseignant là ne l'a pas retenu. C'est-à-dire, c'est une écriture qui veut rendre l'égalité entre le masculin et le féminin dans l'expression écrite. Donc, c'est une telle déstructuration de la société que c'est rejeté. Et donc, on retrouve ici, dans ces versets, moi j'ai appris cette bonne règle de grammaire quand j'étais enfant, le masculin l'emporte sur le féminin. Et voilà, cette règle se trouve ici dans ces quelques mots. Faisons l'homme à notre image, et Dieu créa l'homme à son image, et il les créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme et la femme. Littéralement, il les créa mâle et femelle. C'est intéressant de revenir sur ce pluriel de Dieu. Faisons. Les théologiens définissent ainsi la Trinité. Dieu existe éternellement en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chacune de ces personnes est pleinement Dieu et il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, quand le texte parle d'homme et de femme, évidemment, ça sous-entend que l'on sait que l'homme et la femme sont physiologiquement très différents. Mais on peut l'exprimer ainsi, donc, que l'homme est pleinement humain. La femme est pleinement humaine et les deux forment l'humain. L'humanité, c'est un terme qui représenterait l'ensemble des hommes et des femmes, de tous les hommes et de toutes les femmes, mais ici il y a l'idée de l'homme et de la femme qui sont indissociables et c'est les deux qui forment l'humain et chacun est entièrement humain. L'homme et la femme, séparément et ensemble, image de Dieu. C'est l'homme et la femme qui vont avoir la possibilité de remplir ce mandat, dominer sur les animaux et assujettir la terre, autant l'homme que la femme, c'est ce que l'on comprend, chacun indépendamment. Mais il y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire tout seuls, c'est la procréation. On utilise ce mot procréation avec le mot créer dedans, c'est-à-dire pouvoir avoir, donner la vie et avoir des enfants. Et donc ça ne peut se faire qu'en étant deux. Ça ne peut pas se faire en étant tout seul. Et il faut deux personnes qui vont être complémentaires, qui vont être différentes l'une de l'autre. Et ensemble, ils vont pouvoir procréer ensemble et séparément l'homme et la femme portent l'image de Dieu. Alors là aussi, la théorie du genre s'écrase complètement sur ce verset. Hein, la théorie du genre dit ceci, l'identité sexuelle de l'être, l'humain, ne dépend pas du sexe biologique, mais de son ressenti, de la façon ressentie, subjective de chacun. Et donc, cette définition s'écrase complètement sur ce verset. L'homme et la femme complémentaires, chacun pleinement humain et les deux formant l'humain. L'importance de l'être humain, ben, il est créé en dernier, on l'a vu dans la liste. C'est la dernière des choses que Dieu a créée, porteur de l'image de Dieu. Devant qui il va porter l'image de Dieu? Ben devant les autres choses créées, c'est le dernier. Devant les animaux, particulièrement. Alors, on fait beaucoup de remarques sur ce que est la particularité et ce qui les distingue des animaux, comme de se tenir debout sur les deux jambes, et plein d'autres choses qui le distinguent l'homme de l'animal. importance de l'être humain et son insignifiance, sa légèreté. Les capacités physiques que nous avons ne sont que très moyennes. On court, mais pas très vite. On a des yeux, mais pas très perçants. On a des ouïes, mais pas très fines. On a un odorat, mais pas très bon. On est un petit peu moyen partout. On a une croissance qui est très lente, qui prend des années. Et puis, on est très fragile. L'être humain est très fragile. Il n'est pas de carapace. Il n'a pas de... il n'a pas de grandes dents, il n'a pas de, il n'a pas grand chose en fait. Il est très dépendant de la terre. Hein. Si on mange pas, on meurt. Si on ne respire pas, on meurt aussi. dépendant de la nourriture que la terre va lui donner. Voilà, un homme également qui va être capable de perdre l'image de Dieu. Plus tard, le texte nous dit que cette image dont il portait, il l'a perdue, il l'a abîmée, elle est irreconnaissable maintenant. Insignifiance de l'être humain, une telle distance entre Dieu et l'homme. Et pourtant, Dieu lui confie son image, de porter son image. Privilège. Responsabilité de l'humain, il a une bénédiction particulière, tout spécialement pour lui. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, toujours la bénédiction avec une instruction qui suit, un mandat chargé de gérer pour Dieu et de le représenter dans la création visible, sur la terre, et surtout les animaux. Donc, évidemment, la terre n'appartient pas à l'homme, les animaux n'appartiennent pas à l'homme, tout appartient à Dieu, mais il a un rôle de gérant, de mandataire, de domination, et c'est vraiment l'idée qui est derrière, c'est vraiment cette idée derrière ce mot de gérant. De gérer pour quelqu'un d'autre. Dieu le Créateur, qui nous a créé notre image, une image sans doute perdue. Dieu le Créateur qui nous structure encore aujourd'hui. Depuis le temps de la création, il y a eu ce que les savants utilisent un mot vraiment très compliqué à comprendre. Ils utilisent le mot chute. Qu'est-ce que ça veut dire chuter? Là, même les enfants peuvent comprendre ce que c'est que chuter. C'est quoi chuter? C'est tomber. Tomber par terre. On chute, on tombe par terre. Et l'homme est tombé par terre. Mais il y reste encore d'abondance traces de ce que le premier homme et la première femme étaient autrefois. Et ce chapitre de la Genèse 1, nous allons le reconnaître en chacun d'entre nous. Pour ce qui concerne le séparer, créer, diversifier, alors on classe, on range, on ordonne dans nos maisons, chaque chose à sa place. Voilà, les casseroles dans le placard, dans tel ordre, et dans la bibliothèque, tout est rangé, tout est ordonné, tout est classé, tout est organisé. On aime également la diversité, faire des cuisines différentes, des plats différents, des chants différents. Voilà, on aime bien varier toutes choses, la façon dont on s'habille, une multitude de choses. Avec lesquels on va créer, on va diversifier comme Dieu. Remplir la terre. Alors, il faut dire que là, pour le coup, on est allé partout. Hein, au bout de la plus haute montagne, au fond du désert, dans les glaces les plus profondes, les plus froides, on y est allé. On s'est fait un honneur d'y mettre les pieds. On a rempli la terre. On a même dépassé le mandat puisque on avait décidé d'aller sous la lune à un moment donné, vous savez. Et puis, voilà, on a vu que là-bas, il n'y avait rien à faire pour nous, finalement, il n'est pas revenu. Mais bon, voilà, remplir la terre, ça, c'est l'homme. Administrer, dominer, assujettir. Alors, on est des administrateurs en puissance, hein, on administre tout. Hein, on aime les administrations et on administre nos vies, on administre nos journées, ce qu'on va faire, on commence par ça, puis par ça, puis par ça, puis par ça, on prend le déjeuner de telle manière, à telle heure. On administre nos vies, on administre notre travail, on administre nos villes, on administre nos pays, et on administre tant et si bien que chacun n'administre pas de la même manière, et puis ça crée des conflits, ça crée des problèmes, des complications. On est des administrateurs en puissance. Malgré notre faiblesse, on arrive à dominer les animaux. L'animal terrestre le plus gros, c'est l'éléphant. Ah ben, on est arrivé à le domestiquer. La question de la domination des animaux, c'est quelque chose que qui me parle parce que je suis grandi dans une ferme, et là, il y avait des vaches. Mon père était élevé des vaches. Et on est petit, et les vaches blanches et noires, donc, c'était des vaches à lait. Quand elles avaient 2 ans, ils les vendaient. Et il y avait le marchand de vaches qui venait avec son camion, et il fallait faire monter ces vaches sur ce camion, et elles n'avaient pas du tout envie d'y aller, parce que c'était un endroit qu'elles ne connaissaient pas. Et puis, voilà, donc c'était chaque fois, chaque année, un peu la galère pour les faire rentrer. Mais avant cela, je voudrais... Peut-être vous avez vu toujours dans les vaches, ce western de cow-boy. Alors les cow-boys, c'est les vachers, des personnes qui étaient chargées de s'occuper des vaches. Et pour être un bon cow-boy, il ne fallait pas savoir tirer au pistolet, et il ne fallait pas savoir être un as de la bagarre. Il fallait savoir s'occuper des vaches. C'était vraiment leur métier. Et je me souviens d'un western, j'ai pas retrouvé le nom, où il y avait un troupeau de vaches qui s'était mis à fond, ils couraient, un immense troupeau, ils n'arrivaient pas à l'arrêter, il n'y avait pas moyen de l'arrêter. Et pour l'ultime façon de l'arrêter, je sais pas si cette histoire est vraie ou pas, j'ai pas retrouvé l'histoire de ce film, les hommes, les cow-boys donc, ils s'étaient mis un tous les 10 mètres, et ils devaient faire face au troupeau comme ça qui arrivait vers eux, et il fallait qu'ils bougent pas. Et le troupeau qui arrivait sur une ville, qui allait tout ravager, en se mettant comme ça, un tous les 10 mètres, en regardant le troupeau en face, le troupeau avait finalement s'était arrêté des 4 fers, et il s'était stoppé, et la ville avait été sauvée. Je sais pas si cette histoire est vraie, mais pour en revenir à mon histoire à moi, j'étais enfant, j'avais 10 ans, je pesais 40 kilos, et donc le moment où il fallait rentrer ces vaches, une fois, elles avaient fait demi-tour, elles étaient 4, et elles faisaient demi-tour, et elles fonçaient sur moi. Moi, j'étais avec 10 ans, on fait ce qu'on fait, son papa, j'étais là avec mon bâton à la main, et puis je me suis mis devant les vaches, j'étais devant les vaches, et puis je ne me suis pas sorti, je levais le bras, comme ça, je suis resté là, immobile. Et je pesais 40 kilos, et ces vaches, elles étaient jeunes, mais elles pesaient 400 kilos chacune. Je faisais absolument pas le poids. Mais elles se sont arrêtées, brutalement. Et le marchand de vaches qui était là, il n'en revenait pas. Et il m'avait donné une bonne étrenne à cause de ça, parce que le petit avait arrêté les vaches. L'homme domine sur l'animal. C'est quelque chose que je comprends d'une façon très particulière, cette déclaration qui vient de Dieu. Assujettir la terre. Là aussi, on est champion pour assujettir, c'est rendre esclaves, c'est rendre serviteurs la terre. On est champion pour ça. Hein, on sait très bien prendre de la terre, la faire cuire pour faire des briques. On sait aussi maîtriser le feu, on sait tailler les pierres les plus dures pour faire des constructions, on sait creuser le sol, trouver des métaux, les faire fondre, on sait construire des barrages pour retenir les fleuves, pour faire de l'électricité. On est champion pour exploiter, pour mettre à notre service toutes les ressources de la terre. Et là, certainement, on oublie souvent que nous avons la responsabilité de gérer la création de Dieu et pas de l'exploiter. Et il y a des conséquences d'avoir et d'aller trop souvent, trop loin, croire que tout nous appartient. Administrer, dominer, assujettir, travailler dans le temps. On travaille le jour, on dort la nuit. Curieusement, il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Dans mon travail, l'unité de temps, pour c'est la semaine, on compte en semaine de travail. Et voilà, il y a 50 semaines de délai, il y a 30 semaines de délai, il y a 4 semaines de délai pour avoir telle ou telle prestation. On organise le travail, on fait des plans, des projets, on se projette dans le temps, on imagine la façon dont il faut faire quelque chose et la façon de procéder pour le faire. Et on termine également notre travail dans le temps, tel le Créateur s'y est pris pour faire le ciel et la terre. On tire également satisfaction des bonnes œuvres. Le travail bien fait nous donne de la satisfaction. Et également, il y a question de se reposer. Je relis notre texte. Le ciel et la terre furent terminés avec toutes leurs armées. Le septième jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de son activité le septième jour. Dieu bénit le septième jour, en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Nous savons que le travail n'est pas une finalité. Mais alors, si le travail n'est pas une finalité, qu'est-ce que la finalité? Vous pouvez chercher la réponse à cette question, mais quelle est la finalité? Ici, après le travail, il y a le repos comme un jour saint, comme un jour saint. Ce texte nous invite à de nombreuses applications. Je crois que la première des applications, c'est connaître Dieu. Si Dieu nous a créé, nous a confié une responsabilité, il est bienvenu de le connaître car, tôt ou tard, il va nous demander des comptes de ce que nous avons fait de la vie qu'il nous a donnée, de cette bénédiction qu'il nous a accordée. Connaître Dieu, se laisser structurer par Dieu. Dieu est la parole de Dieu, la création est très structurée. Et nous aussi, nous devons nous être structurés. Parce que souvent dans nos vies, il y a du désordre, il y a du repli sur soi, il y a parfois le refus d'avoir des enfants, il y a un accaparement, un gaspillage, des dilapidations des ressources qu'on a, du noctambulisme, de la procrastination, remettre à demain ce qu'on doit faire maintenant, il y a du stress. Il y a un travail sans fin parfois, ou au contraire de la paresse, de l'avidité, de la distraction. Le cadre que Dieu a posé pour l'homme, sa créature est très bon. Mais on sort souvent de ce cadre. Et on passe à côté de la satisfaction que Dieu donne, la bénédiction que Dieu donne. En sortant du cadre, on la perd. Elle nous échappe et pourtant on y aspire. Se laisser structurer par Dieu, ma deuxième application. Apprendre à nous arrêter. Apprendre à s'arrêter. Le repos n'est plus que l'absence de travail, c'est également l'arrêt de tout ce que l'on fait pendant la semaine. Un break, un jour saint, dit Dieu, un jour pour Dieu. Prendre un temps pour écouter Dieu et prendre un temps également pour écouter son prochain qui est porteur de l'image de Dieu. Les deux vont ensemble. Communiquer, communiquer. On dit que les principaux problèmes dans les dans les couples, dans les familles, c'est qu'il n'y a pas de communication. On ne prend pas le temps de s'écouter, de se parler, d'échanger. Mais quand on le fait, c'est tellement bon. Prendre le temps également de s'émerveiller de Dieu. On peut le faire, de s'émerveiller de tout ce qu'il a fait. On peut également de s'émerveiller de tout ce qu'il est, de toute la façon dont il se présente dans ce texte. Apprendre en tout cas à nous arrêter, à éteindre l'écran. C'est le principal problème qu'on a maintenant dans notre société. Autre application, reconnaître la dignité de tout être humain créé à l'image de Dieu. Reconnaître la dignité de tout être humain créé à l'image de Dieu. Et on n'a pas besoin d'aller chercher très loin. Ça concerne les personnes avec lesquelles on vit, son conjoint, les membres de sa famille, ses enfants. Écouter, faire preuve de respect, d'humanité au sens noble de ce terme tel qu'il est, a été exposé ici dans la parole de Dieu. Reconnaître la dignité de tout être humain. Et là, les applications sont multiples et très concrètes dans notre vie quotidienne. J'aurais une application particulière pour les hommes, puisque c'était un petit le sujet de la masculinité. L'homme original et la femme originale donc sont créés à l'image de Dieu. Alors, Dieu a créé la force, il a aussi créé la faiblesse. Et il arrive souvent que nous les hommes, nous sommes en position de force à certains moments. Et là, on a tendance à faire de l'abus de pouvoir. C'est un problème que en ce moment, les médias remontent massivement, un problème d'abus de pouvoir par rapport à une personne qui est en position de faiblesse. Alors, il faut s'interdire toute... quand on est en position de domination, quand on est en position où on est le plus fort, il faut absolument s'interdire que dans ces moments-là, on en profite parce qu'il y a on est en face où on a affaire à une personne qui est en situation de faiblesse. Si Dieu a créé la force, il a aussi créé la faiblesse. Tout est à lui. Et la parole de Dieu nous met en garde. Malheur à celui qui tombe entre les mains du Dieu vivant. À lui appartiennent toutes choses. Je suis arrivé au bout de ce que j'avais prévu de partager. Je voudrais prier avant de rendre la parole à Morel. Vous encourager donc à discuter, de prendre le temps de discuter en famille de toutes ces choses, de les partager, d'avoir de vrais moments où voilà, il y a une chose peut-être qui vous a interpellé plus que l'autre. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi surtout, bien évidemment, mais communiquer, parler et pour le meilleur, du moins c'est ma prière. Seigneur, merci de ce moment. Merci de nous aider dans notre faiblesse pour mettre en pratique ce que nous entendons, pour nous les approprier, pour les vivre pleinement et en vérité. On est fiers de pouvoir faire plein de choses. Et on est fiers de pouvoir avoir tant de puissance, mais on est si peu capable de simplement t'écouter, si peu capable de faire, d'entrer dans la bénédiction que tu as prévue, cette bénédiction qui est toujours assortie d'une instruction dans laquelle elle s'accomplit, elle s'épanouit, elle se réalise. Merci Seigneur, parce que l'histoire ne s'arrête pas là, et parce que à travers Jésus-Christ, tu as pourvu à ce besoin d'être sauvé de notre condition d'humain, faillible, en faillite, en échec si souvent. Et merci parce que il est capable, et il a fait, et tu as fait tout ce qui était nécessaire pour repêcher ta magnifique création, ta magnifique créature qu'est l'être humain. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.